Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans RFI Soir. C'était une grande première pour un président chinois. Xi Jinping était hier à Davos, antre du capitalisme mondial. Pour s'assurer de la présence du numéro 1 chinois, le directeur du forum n'a pas hésité à avancer le rendez-vous d'une semaine. Nouvel an chinois oblige. C'est d'ailleurs à Xi Jinping qu'a été confié le discours d'inauguration. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le président chinois a honoré l'invitation, se lançant dans un véritable plaidoyer pour une mondialisation irréversible, offrant à l'élite économique qui était réunie devant lui un profil de gendre idéal du libre-échange et un contrepoids à Donald Trump et ses tentations protectionnistes. Une élite économique séduite à l'image d'André Le Sgruc-Pietri, patron du fonds d'investissement à capital.
Déjà sur la forme, carton plein. Moi j'avoue que j'ai été assez séduit parce que l'image des dirigeants chinois, comme on les imaginait, langue de bois, etc., ou des catalogues de chiffres, ils commencent par une petite blague introductive. On a l'impression de voir Obama parce qu'il lit son prompteur, donc il lit pas ses notes. Et ensuite, c'est assez étonnant parce qu'il a quasiment point par point répondu à beaucoup de sujets qui ont été des sujets d'inquiétude, notamment avec l'élection de Donald Trump.
Alors avec ce plaidoyer de Xi Jinping en faveur du libre-échange, on est loin de l'économie centralisée, planifiée, théorisée par le fondateur de la République populaire de Chine, Mao Zedong, le 1er octobre 1949. La Chine a-t-elle encore quelque chose de communiste en 2017? C'est notre thème du jour. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Françoise Nicolas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur et directeur du Centre Asie à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous avez très envie de répondre à la question que je viens de poser. Quelques secondes, je présente d'abord Jean-Luc Domenac. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche aux séries de Sciences Po, spécialiste de la Chine, auteur de nombreux ouvrages. Le dernier, Les fils de princes, une génération au pouvoir en Chine, édité chez Fayard. Alors, avant d'en venir peut-être à la teneur du discours d'hier, je voulais d'abord votre réaction sur ce déplacement en lui-même. Jean-Luc Domenac, c'est une grande première, je le disais. Jamais aucun président chinois n'était allé à Davos, n'avait parlé à la tribune. Ça vous évoque quoi? Un tournant, un symbole ou plutôt une forme de logique?
Je vais vous dire, je vais me mettre à la place de l'épicier de mon quartier quand je vivais à Pékin. Et lui, il pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais il pense que quand on se trimballe comme ça avec les meilleurs, on prend des risques. Il est très très simple. Hein, et je pense que c'est très véritablement le problème de la Chine d'aujourd'hui. Ils sont maintenant dans le coup, ils sont dans le circuit, mais ils le reconnaissent. Ils risquent, disons, d'apparaître ce qu'ils sont, bon ou mauvais.
Françoise Nicolas, qu'est-ce que vous inspire ce déplacement?
Moi, je suis à tout à fait de l'avis de Jean-Luc Domenac. Je suis désolé, hein, il ne va pas y avoir de débat sur ce point-là.
Ça va peut-être venir.
Effectivement, je pense que les Chinois affirment enfin ce qu'ils veulent être. Jusqu'à présent, ils jouaient toujours un peu sur les deux tableaux. Oui, certes, on est peut-être une grande puissance, mais on est quand même en développement, donc il ne faut pas non plus nous mettre trop de responsabilités sur le dos. Et là, apparemment, ils veulent assumer ce rôle de grande puissance qu'ils sont. Ils veulent l'assumer intégralement. Évidemment, ça entraîne des responsabilités, ça entraîne aussi peut-être des difficultés, enfin en tout cas des risques à prendre. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le discours, c'est effectivement plaidoyer ahurissant pour la mondialisation, pour la libéralisation. Mais là, ce qui était très intéressant, c'est que c'était une critique voilée de Donald Trump, sans jamais le nommer, sans jamais l'identifier. Et c'était assez habile. Mais ça s'explique assez facilement, hein, que Xi Jinping se revendique autant défenseur de la mondialisation, alors qu'on attendrait ça plutôt de la part d'un Obama ou d'un représentant d'une grande puissance occidentale. C'est quand même pas si surprenant que ça, parce que en Chine, d'abord la Chine a été la première bénéficiaire de la mondialisation. Donc que l'on dise la mondialisation c'est génial, c'est assez normal.
Alors on vient de fêter les 15 ans dans l'OMC et c'est effectivement la grande leçon finalement. 15 ans.
La Chine c'est la grande bénéficiaire de son entrée à l'OMC, c'est la grande bénéficiaire de la mondialisation. Donc il est assez normal que Xi Jinping justement reconnaisse cela, reconnaisse les vertus de la mondialisation. Par ailleurs, il y a peut-être moins de perdants de la mondialisation en Chine que dans le reste du monde. Et par ailleurs, même s'il y avait quelques perdants de la mondialisation, ils n'ont de toute façon en Chine pas voix au chapitre. Donc, il peut très bien, lui, défendre cette mondialisation. Personne ne sera là pour le rappeler à l'ordre, éventuellement. Alors que chez nous, c'est pas exactement comme ça que ça se passe.
Alors, juste un mot avant d'effectivement se plonger dans ce qui a été dit hier, sur le traitement médiatique aussi, puisque Jean-Luc Nobenac, il y avait beaucoup de journalistes de Chine Nouvelle, qui est l'agence de presse officielle, Xinhua qui était là, 20, je crois, qui sont venus depuis Pékin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, le discours aujourd'hui sur le capitalisme, la Chine dans le système capitaliste, c'est plus du tout tabou. Ça fait déjà longtemps que ça ne l'est plus. Comment vous le lisez, ça?
L'un et l'autre, ça veut dire qu'ils sont maintenant dans les circuits, qu'ils cherchent à en profiter au maximum, et que, eh ben, ma foi, s'ils ne laissent pas une bonne impression, s'ils ne sont pas brillants, etc., ils auront des ennuis avec leur patron. Il faut voir ce que c'est il faut voir ce que c'est que le système chinois, hein, quand on vous envoie à Davos, vous avez intérêt à faire le boulot. Alors, vous faites, il faut faire le boulot de se renseigner. Il faut faire le boulot de se montrer intéressant. Mais il faut aussi faire le boulot de quelque chose qui serait la mise en évidence, disons, de l'importance de la Chine. C'est compliqué maintenant. C'est plus comme c'était avant. Quand vous allez chez les bureaucrates occidentaux, il faut maintenant faire les malins. Il faut faire quelque chose. Eh ben, c'est ça, Davos, pour les Chinois.
Alors, sur le fond du discours, donc le président chinois a défendu la mondialisation tout en concédant, hein, il faut quand même le dire, qu'il fallait aussi en amortir les chocs. Xi Jinping a dit « nous devons rester attachés au développement du libre-échange, dire non au protectionnisme, toute tentative de stopper les échanges de capitaux, technologies et produits est impossible et à rebours de l'histoire ». Alors, c'est quand même...
Oui, la critique est à peine voilée.
Voilà, c'est quand même très clair.
Donald Trump qui prêche l'inverse.
Mais il y a aussi une autre manière peut-être de voir les choses. Enfin, est-ce que c'est un discours pragmatique? Parce qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, la Chine est évidemment la deuxième puissance mondiale, donc elle a des problèmes, elle a des exportations qui sont plus difficiles avec une croissance mondiale qui n'est pas très très haute. Ou est-ce que c'est aussi une forme de mue, pour en revenir un peu à ma question, ce qu'il reste de communiste dans la Chine de 2017? Ouf. Françoise, Nicolas, peut-être?
Je pense simplement que le plaidoyer pour la libéralisation, enfin pour le libre-échange, la Chine veut simplement montrer que elle est plus responsable que d'autres pays dans le monde, et donc notamment que les États-Unis. Je crois qu'il a dit clairement dans son discours aussi que une guerre commerciale serait absolument ahurissante, et que ça serait une folie de se lancer dans une guerre commerciale. Donc il veut montrer que la Chine, elle, est plus responsable que d'autres puissances. Parenthèse, bon, les États-Unis, c'est clair, même s'il n'a pas dit ça.
Effectivement, Donald Trump, il faut le dire aux auditeurs, a été quand même très très offensif à l'égard des Chinois. Ça a été une partie de sa campagne. Il a convaincu comme ça aussi.
Un de ses termes de campagne, c'était une guerre commerciale, ça ne me fait pas peur. Et lançons-nous dans une guerre commerciale. Donc là, Xi Jinping dit exactement l'inverse. Et je pense que l'idée, c'est de montrer que la Chine est plus responsable et plus consciente des risques qu'une telle posture entraînerait. Et donc, elle ne veut pas se lancer dans une affaire aussi hasardeuse.
Quand même Dominique. entre Xi Jinping d'une part et d'autre part le tout venant des petits bureaucrates qui cherchent à faire les malins et à laisser une trace, si je puis dire. Xi Jinping, je crois incontestablement, il travaille bien, il a du monde autour de lui, il a été au milieu des années 80, il a fait un vrai séjour aux États-Unis, il est allé, il sait comment ça se passe, etc., etc. Sur le détail des choses, je crois que véritablement, ils sont pas toujours très très au point de ce qu'ils veulent vraiment, réellement. Et là, vous êtes d'accord?
Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que vous avez l'air de vous comprendre, je suis pas sûr que les auditeurs comprennent.
D'abord, ils ont une situation qui est pas facile, hein. Et est-ce qu'ils la reconnaissent? Est-ce qu'ils reconnaissent qu'elle est pas facile? C'est un deuxième point. Et deuxièmement, comment on se lance vers quoi? Est-ce que comment vous pouvez travailler quand vous ne pouvez pas dire clairement à tout le monde quelle est la logique qu'on va choisir, vous comprenez?
Alors c'est... pourquoi est-ce qu'on peut pas, parce qu'on est prisonnier d'une histoire?
Parce que c'est un problème, parce que c'est un problème. Est-ce qu'on peut dire dans un pays, dans un régime où on ne dit pas tout ce qu'on veut faire, comment voulez-vous que tout le monde sache ce qu'on veut faire?
Voilà. Jean-Nicolas, vous êtes d'accord?
Je suis pas complètement convaincue par ça. Je pense que là l'intention c'était vraiment une sorte de posture marketing. C'est une grande opération de relations publiques. Après, ce qui se passera clairement sur le terrain, c'est autre chose.
C'est
vrai, je pense que là c'était vraiment une grande offensive relations publiques. C'était une grande offensive de séduction, une grande offensive de charme. Mais ensuite, est-ce que vraiment la posture chinoise sera aussi libérale que ça? Ça, c'est une toute autre question.
On n'est pas très loin.
Et l'est-elle aussi? Parce qu'alors, effectivement, je voulais vous poser la question. Vous dites marketing, il y a un peu d'ironie quand même. Enfin, vous allez me dire si je me trompe, avoir le chef du plus grand parti communiste du monde défendre et même se faire le défenseur du libre-échange.
Oui.
Et puis, il y a aussi la réalité des faits. Comment fonctionne aujourd'hui l'économie chinoise? Alors, juste un mot, je voulais signer celui qui va devenir le secrétaire d'État au commerce de Donald Trump, puisqu'on parlait des États-Unis, qui dit la Chine parle beaucoup plus de libre-échange commercial qu'elle ne l'applique. La Chine dispose de barrières douanières très élevées, de barrières non douanières très élevées qui entravent le commerce.
Tout à fait, c'est pour ça que je dis, il y a le discours, il y a l'affichage de responsabilité, l'affichage de sérieux de la Chine, puis il y a la réalité. Et là, il y a un décalage énorme entre les deux. Donc pour revenir à la question que vous posiez tout à fait au début, qu'est-ce que la Chine a encore de communiste? C'est extrêmement simple, et on peut résumer ça en un mot, son parti.
Ma collègue Anne
Domenech, vous êtes d'accord?
Oui,
ça fait pas beaucoup, juste le parti, mais ça fait une énorme différence.
Complètement d'accord, jusqu'au point suivant qui est que en Chine maintenant dans ce système où tout le monde mesure l'importance des décisions l'intérêt qu'il y gagnera, ensuite disons tout dépendra de ce qui est désigné pour tel groupe d'intérêt, par exemple, il y a actuellement deux ou trois énormes problèmes qui sont, qu'est-ce qu'on va faire de tout le charbon, qu'est-ce qu'on va faire de tout de la
Donc ça, vous voulez dire que ce sont des restes un peu de la planification, ça vient d'en haut.
Pas seulement, c'est que chacun regarde son porte-monnaie, et donc je crois qu'il y a véritablement, vous avez raison, et elle dit bien les choses, la collègue, c'est-à-dire c'est véritablement la stratégie qui compte, mais en même temps il y a tout le monde qui sont là derrière, et moi qu'est-ce que je vais faire, comment on va survivre nous?
Alors Françoise Nicolas, vous nous disiez tout à l'heure, et apparemment là-dessus Jean-Luc Domenech était d'accord avec vous, il n'y en reste plus grand-chose de communiste en Chine que le parti. Mais alors comment est-ce qu'on définit aujourd'hui le système économique chinois?
Il reste le parti, et c'est énorme, parce que ça veut dire qu'on peut avoir des apparences de libéralisation, on peut avoir des apparences de capitalisme, mais il reste que le parti est omniprésent, le parti intervient... partout, il intervient dans les entreprises, et d'ailleurs des dispositions
ont été
prises...
Alors ça se manifeste comment, pour que ce soit bien clair pour nos auditeurs?
Précisément, il y a eu des dispositions tout à fait récentes, maintenant ça doit faire un an et demi, où les cellules du parti au sein des entreprises ont été renforcées. Donc ça veut dire que la mainmise du parti sur les entreprises est plus forte qu'auparavant. Donc le parti, il est partout.
Attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des cellules du parti dans les entreprises chinoises, et que donc, par exemple, quand une décision doit être prise, justement, pour choisir une orientation, est-ce qu'on investit plutôt là-dessus ou là-dessus, finalement, c'est Pékin qui décide? C'est comme ça que ça marche?
Normalement.
Alors après, on écoute plus ou moins aussi ce que dit le centre. Mais malgré tout, ça n'est pas un système qui est comparable au système que l'on observe dans les économies occidentales, c'est tout. Donc ça fait quand même une grosse différence. Après, on a aussi des... des interventions diverses qui prennent notamment la forme de subventions. Et là encore, on n'est pas du tout dans un système libéral. Il y a quand même des doigts qui sont dans les mécanismes de prix partout.
Absolument.
Et est-ce que ça entrave finalement la croissance chinoise, ou est-ce qu'à l'intérieur aujourd'hui de la Chine, on se dit finalement la mainmise de l'État nous fait prendre de mauvaises décisions, on a besoin de plus pouvoir peser
c'est
le pour et le contre.
C'est pas seulement le problème de la croissance chinoise. Je crois qu'effectivement, si on raisonne en termes de croissance, ma collègue sera certainement d'accord avec moi pour dire que si on continue à aider le charbon, etc., c'est bon pour la croissance et pour les chiffres, si je puis dire. La vérité, c'est qu'est-ce qu'on sera capable de faire pour que Xi Jinping pense que c'est de moderne, qu'on est dans la modernité. Parce que lui, il a compris ça. Et c'est un peu une des contradictions qu'il y a à l'intérieur, disons, du système. C'est-à-dire, d'une part, Xi Jinping est obligé de pousser les chiffres de la croissance, mais d'autre part, il sait qu'il faut dépousser, en quelque sorte, les chiffres du charbon, et de des constructions dans les grandes villes, disons. Et c'est ça. Maintenant, il faut changer, il faut pousser il faut pousser la production, mais il faut pousser
la réflexion aussi. Et est-ce que Françoise Nicolas, justement, au niveau de cette réflexion, on a aujourd'hui, j'allais dire, des débats sains, des débats où on peut parler de tout en Chine en matière économique. Alors, on parlait tout à l'heure du charbon, on parlait de pousser les chiffres de la croissance. Je pense là, peut-être que le parallèle est mauvais, mais au débat qu'on a aujourd'hui en France sur la raréfaction du travail, en se disant il faut se projeter aussi dans 100 ans, quand il y aura peut-être moins de croissance et que ce sera devenu structurel, il y aura moins de travail, donc on pense au revenu universel. Est-ce que ce genre de débat est aujourd'hui possible en Chine, dans le monde économique?
Non, sous la même forme que chez nous, certainement pas. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une tension constante, et depuis longtemps, entre la nécessité de maintenir la croissance pour satisfaire le plus grand nombre, et la nécessité aussi de faire glisser le système économique vers plus de modernité, mais aussi vers des secteurs qui sont moins polluants, qui sont moins intensifs en main-d'œuvre, etc. Et constamment, il y a ces deux tensions. Il faut de la réforme, mais la réforme entraînerait vraisemblablement un ralentissement. Or, ce ralentissement risquerait d'avoir des conséquences à la fois sociales et politiques. Et donc, il y a une constante valse-hésitation, si vous voulez, entre ces deux objectifs, soutenir la croissance et puis passer à un régime de croissance différent.
Alors, est-ce que c'est peut-être une question un peu idiote, mais est-ce que les énormes pics de pollution aujourd'hui ne facilitent pas finalement le débat là-dessus, Jean-Luc Domenac ?
Oui, ça facilite le débat s'il est besoin, parce que vous savez, les Chinois qu'on connaît, etc., de Pékin et d'ailleurs, sont furieux. Hein, ils ont compris depuis bien longtemps. Mais ce qui est important, et c'est, je dirais que vous, et cette émission vous est importante, parce que tout ça pousse dans le sens, disons, que la Chine sache que si elle ne se corrige pas, elle sera critiquée. Et il ne s'agit plus seulement maintenant d'être communiste, c'est le sujet de votre... Il s'agit d'être un peu convenable aux yeux du reste du monde.
Et quand vous dites que nous sommes importants, vous voulez dire nous en tant que médias libres, ou plusieurs positions peuvent être entendues?
Tout ce que nous sommes en train de dire, il y a une dizaine de gars qui sont en train de résumer tout ce qu'on est en train de dire. Ne vous inquiétez pas, ça va monter, et puis ensuite ça va disparaître quelque part entre le milieu et le haut de la chaîne.
Donc finalement, libéralisme économique avec ses limites, mais par contre, au niveau justement du débat d'idées, c'est pas encore ça, Françoise Nicolas, y compris sur le plan économique, c'est très compliqué.
Il y a un débat d'idées, mais ce qui est difficile, c'est d'ensuite traduire ce débat d'idées en mesures concrètes. Là, c'est un peu plus compliqué, parce que, je vous dis, il y a constamment la tension entre le maintien des équilibres difficiles, précaires, et puis la nécessaire réforme, donc le nécessaire changement.
Bah, rendez-vous peut-être l'année prochaine à Davos pour avoir un deuxième discours de Xi Jinping. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Françoise Nicolas, chercheur et directeur du Centre Asie, à l'IFRI, à Jean-Luc Domenac, directeur de recherche au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po, spécialiste de la Chine, auteur de Les Fils de Prince, une génération au pouvoir en Chine. Merci également à Florence Ponce et à Valentin Vanner. On se retrouve demain et nous parlerons du Parti Socialiste en France cette fois.
Voilà.
La cinquième édition de l'Africatio Forum.